Pour en finir donc avec la vision, l'eschatologie, est-ce que vous pensez, vous, que nous sommes entrés dans un temps eschatologique ? Avec tous les événements qui peuvent se passer, et notamment si on regarde l'islam, qui est divisé, est-ce que pour l'islam, on n'est pas aussi dans une période qui redoute eux, avant tout, c'est-à-dire la fitna, la division au sein de l'islam ? Quelle est votre vision de l'époque ?
Et moi, je reste dans ce que le Christ nous a dit dans l'Évangile, hein, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et pour ma part, donc, je suis pas du tout dans cette attitude d'être attentif à des signes qui annonceraient la fin des temps. Pourquoi ? Parce que personnellement, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire, que j'inscris notre existence dans cette grande perspective, et que il y a eu plein de périodes terribles dans l'histoire humaine. Et quand aujourd'hui on nous dit regardez tout ce qui se passe, c'est la fin des temps, les gens oublient qu'a été la tragédie évidemment de 14-18. On est en train de célébrer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette énorme boucherie qui a saigné l'Europe, c'était un truc absolument incroyable. On oublie ce qu'ont été les catastrophes humanitaires, les millions de gens qui sont morts, encore même au 19e siècle, y compris en Algérie, les gens qui sont morts de la famine, les gens qui sont morts de la peste. Enfin, notre humanité, à plusieurs périodes de son histoire, a été décimée. Et aujourd'hui, on arrive à éviter un certain nombre de grandes catastrophes qu'on ne savait pas éviter ou prévoir dans les siècles précédents. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que des gens disent « il y a les signes de la fin des temps ». Au moment de l'an 1000, parce qu'on arrivait à 1000 ans après l'avènement du Christ en Europe occidentale, les hommes ont été pris d'une grande panique, croyant que c'était le moment de la fin des temps. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout dans cette perspective-là. Mais c'est sûr qu'il y a des grands bouleversements. Vous évoquiez dans le monde musulman la question de la fitna, de la grande discorde, le grand déchirement, qui est la hantise du monde musulman. Parce que le monde musulman a connu la fitna dès ses débuts. La déchirure entre les partisans d'Ali et les califes Omeyyades. Et le monde musulman a toujours crainte que la communauté qui devrait être unie à l'image du Dieu unique soit divisée. Or aujourd'hui, en effet, le monde musulman connaît des déchirements comme il ne l'a jamais connu dans son histoire. Jamais le monde musulman n'a connu des violences intra-musulmanes comme aujourd'hui. C'est absolument terrible. Donc on peut comprendre que des musulmans se disent on en arrive à la fin de quelque chose. Moi je dirais pas la fin des temps, je pense à la fin de quelque chose, c'est-à-dire pas seulement pour l'islam. On est aujourd'hui dans une période où l'humanité entre dans un nouveau cycle. On le voit bien à travers des choses très vérifiables et qui ne sont pas forcément négatives, comme la révolution d'Internet, qui est en train de nous faire passer de l'âge de Gutenberg, donc on peut dire à des siècles d'imprimerie, à l'ère du numérique. C'est en train de changer tout le fonctionnement de nos sociétés et ça change également notre fonctionnement cérébral. Toutes les grandes religions sont en pleine mutation, qu'il s'agisse du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, toutes sont en train de connaître des mutations et il est difficile d'imaginer aujourd'hui ce que seront toutes ces grandes religions dans 30 ans. Au plan géographique, elles vont bouger, elles sont en train de bouger, on voit bien les mouvements qui se passent. Mais même dans leur organisation, moi je suis persuadé qu'elles vont beaucoup bouger, beaucoup changer. Si je prends le christianisme, et en particulier le christianisme catholique, je suis certain que dans 30 ans, l'Église est organisée autrement parce que il y a une aspiration à la démocratie chez tous les hommes aujourd'hui, et que le modèle monarchique de l'Église catholique, hérité de Charlemagne finalement, ou alors même si on veut aller partir avant de l'Empire byzantin, est fini. Ça peut plus continuer avec les aspirations démocratiques. De même, la place seconde des femmes dans l'Église catholique ne peut plus durer. C'est plus possible dans une ère où la femme demande à être responsable, à égalité avec l'homme. Donc il y a des choses qui vont bouger considérablement. On peut les percevoir, mais il est difficile d'imaginer ce que cela va donner exactement.
Donc, on disait l'islam est actuellement divisé, mais pour vous, la majorité des musulmans, vous le disiez dans un de vos derniers livres, cherchent la paix et pratiquent un islam plus spirituel d'ailleurs que politique. Et vous citiez le film Malcolm X qui a beaucoup marqué des générations de jeunes musulmans. Alors que dire à l'opinion publique qui hésite toujours entre tolérance et résistance, avec les affaires notamment du voile, du halal à la cantine, des attentats, etc. Enfin, la liste est longue.
C'est sûr que en France et dans toute une partie des pays européens, depuis quelques années, se développe une peur générale de l'islam, qui est alimenté par la violence qui traverse tous les pays musulmans, mais les musulmans ne sont pas les seuls responsables de cette violence, que ce soit la guerre en Irak, la guerre au Pakistan, etc., en Afghanistan. Donc on est marqué par cette violence-là, on est marqué par les retombées de cette violence jusque dans nos propres pays, les attentats terroristes qui ont meurtri terriblement des familles et sans doute malheureusement qu'il y aura d'autres attentats dans les années qui viennent. Donc on est marqué par tout ça. Et le risque, c'est, ou le danger, ou la tentation, la tendance, c'est de tout rejeter, de faire des amalgames, de dire l'islam, voilà, c'est ça, c'est la violence. Non, il faut avoir l'honnêteté de regarder quel est l'islam vécu par la majorité des gens qui nous entourent. Et que ce soit en France, que ce soit au Maroc, que ce soit même en Afghanistan, eh bien, l'islam est vécu par la plupart de ceux qui y adhèrent comme étant une religion de paix. Il y a toujours ce grand malentendu. Si vous demandez aujourd'hui à une personne qui n'est pas musulmane en France, l'islam s'évoque pour vous quoi ? Beaucoup diront la violence. Si vous demandez à un musulman c'est quoi l'islam, il vous répondra mais l'islam c'est la paix. D'ailleurs le nom même d'islam appartient à la même racine que salam, la paix. Voilà, il y a une compréhension complètement opposée de ce qu'est l'islam chez les musulmans et chez les non-musulmans. En fait non, la majorité des musulmans vit l'islam comme une relation intérieure avec son créateur. C'est cela qui est premier chez tout musulman. Et tout musulman se sent porté à l'adoration, même quand il n'est pas un pratiquant régulier, même quand il ne fait pas ses 5 prières par jour. À l'intérieur de lui-même, il y a cet élan de reconnaissance à l'égard du Créateur et cet élan vers l'adoration. C'est ça l'islam. Et du coup, l'islam, parce qu'il est d'abord cela, il apaise les gens. Quand on connaît des musulmans, on voit bien que l'islam les apaise, comme d'ailleurs un vrai chrétien ou un vrai hindou, sa religion, le fait qu'ils se nourrissent d'une manière ou d'une autre de ce trésor-là, de ce patrimoine de foi et de spiritualité, eh bien, l'apaise d'abord personnellement. Et quand on est apaisé soi-même, eh bien, on va être davantage apaisé dans nos relations aux autres. C'est ça qui fait qu'une religion est source de paix. En revanche, une religion peut être utilisée comme une idéologie. C'est le cas, bien sûr, des groupes comme Daesh, mais c'est le cas de certains groupes identitaires qui se réclament du christianisme, de ceux qui brandissent la croix pour aller massacrer les autres, comme on l'a vu au moment des guerres en ex-Yougoslavie. Voilà, on peut utiliser une religion comme une idéologie. Mais si on regarde ce que c'est qu'une religion pour la plupart des croyants, on s'aperçoit que c'est un facteur de paix pour eux et pour le reste de l'humanité.
Le terme musulman, ça vous en parliez dans un de vos livres également, est devenu une identité. Alors qu'avant les années 90, on se définissait avant tout comme français. Donc il y a eu ce basculement. Pourquoi donc, pour résumer ce virage sémantique, et pourquoi est-ce que l'intégration à la française était le plus délicate avec le peuple de Mahomet ?
Alors je crois qu'on est tous capables de prendre conscience que ce qui nous constitue, ce sont plusieurs appartenances. Bon, je suis un être humain, je suis de nationalité française, je suis de confession catholique, j'appartiens à la classe moyenne, etc., etc. Après, chacun va hiérarchiser ses appartenances. Et d'ailleurs, à différents moments de notre vie, on va pas les hiérarchiser de la même manière. C'est-à-dire que certains diront, moi je suis avant tout un homme, donc j'appartiens à l'humanité, tous les hommes sont mes frères. D'autres diront, moi je suis davantage français et c'est mon appartenance française que je mets en premier. D'autres diront, je suis davantage chrétien ou musulman, etc. Et ça c'est important de découvrir ça, qu'un être humain, il est fait de plusieurs appartenances. Et que chacune de nos appartenances nous relie à d'autres hommes. C'est-à-dire quand je dis je suis chrétien avant de dire je suis catholique, eh bien déjà je me relie non seulement aux catholiques, mais je me relie aux protestants orthodoxes. Quand je dis je suis croyant, je me relie aux musulmans. Quand je dis je suis homme, je me relie à tous les autres hommes. Donc c'est important la hiérarchisation que l'on observe. Et qu'est-ce qui nous fait choisir telle ou telle hiérarchisation? C'est souvent ce que la vie a fait de nous. Si je me sens malmené dans l'Europe actuelle, j'aurais plus de mal à me dire européen. Si je me sens menacé dans ma foi chrétienne, à un moment donné, je dirais peut-être je suis chrétien avant de dire je suis français. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec un certain nombre surtout de jeunes de familles musulmanes dans notre pays, parce que ces jeunes de familles musulmanes, majoritairement, ils appartiennent Alors je dirais pas au peuple de Mahomet, mais ils appartiennent d'abord au peuple des émigrations. Et ce qui fait, qui caractérise en général les émigrations, c'est que on a un statut inférieur dans la société. Et donc beaucoup de Français musulmans aujourd'hui, de franco-maghrébins souvent, se sentent stigmatisés dans cette société française, se sentent mal aimés, mal considérés à cause du passé colonial qui a laissé des traces dans le fonctionnement de la société, dans le fonctionnement des mentalités. Et comme aujourd'hui, eh bien avec le marché du travail qui est considérablement dégradé, il est encore plus difficile qu'il y a 30 ans de trouver sa place, eh bien un certain nombre de jeunes essayent de se trouver une identité valorisante qui va éventuellement leur permettre de traverser les désillusions à l'égard de la société française. Donc pour certains jeunes aujourd'hui, ou jeunes gens, quand je dis jeunes, c'est on voit plein de gens de 30, 40 ans qui sont dans ce cas-là, eh bien on va dire « je suis d'abord musulman parce que je suis trop déçu par la France et je peux pas me dire français ». Mais je peux pas me dire non plus algérien parce que j'ai le lien avec le pays de mes parents c'est distendu considérablement. Voilà. Donc je veux dire je suis musulman. Et être musulman, ben c'est une identité valorisante parce que l'islam a 15 siècles d'histoire, parce que l'islam est une religion qui souligne la dignité de l'homme. Et quand je dis je suis musulman, mais je me sens relié à une communauté qui a du poids et qui a une belle histoire.
En conclusion, donc, je vous laisserai porter cette conclusion. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'islam? En France, en tout cas, et quelle attitude faut-il y avoir avec nos compatriotes musulmans?
Écoutez, il ne faut pas avoir peur de l'islam, mais on peut avoir peur de certaines formes d'islam. Il ne faut pas avoir peur du christianisme, on peut avoir peur de certaines formes de christianisme. Parce que quand on regarde l'histoire, encore une fois, on s'aperçoit que les religions, elles peuvent apporter le meilleur comme le pire à l'humanité. Elles apportent le meilleur quand elles sont facteurs de paix, quand elles sont facteurs et d'abord de paix intérieure pour les individus. Elles sont terribles et destructrices quand elles cultivent l'intolérance et le rejet de l'autre. Quand une religion est dans le respect de tout être humain et l'ouverture à tout être humain, indépendamment de ses convictions, eh bien, elle est facteur de paix, créatrice de civilisation. C'est ce qu'ont été l'islam, le christianisme, le bouddhisme, et on peut dire l'hindouisme, même si c'est plus restreint au niveau géographique. Mais en même temps, toutes ces religions ont pu être terribles. Et on l'a vu récemment, y compris le bouddhisme, qui est toujours regardé comme extrêmement pacifique. Eh bien, en Birmanie, le massacre des Rohingyas se fait au nom d'un bouddhisme intolérant, hein, d'un bouddhisme fascisant, on pourrait dire, hein, pour employer un terme moderne. Voilà, donc toutes les religions peuvent être au service de l'humanité, comme au contraire peuvent être meurtrières pour l'humanité. C'est ça. Et le souci de tout croyant, que nous soyons chrétiens, musulmans, juifs, c'est comment veiller à ce que notre religion ne soit pas déformée, voilà, qu'elle ne soit pas utilisée dans un sens contraire au message premier. Comment faire pour que les germes de violence qui existent dans toute religion, eh bien, soient anéantis d'une certaine manière. Parce que il y a un lien très fort entre la violence et le sacré. Et surtout dans les religions monothéistes. Parce que dans les religions monothéistes, on va affirmer que Dieu est unique. Et donc, il n'y a pas de place pour d'autres conceptions de la divinité, notamment pour des dieux et pour des idoles. Donc, le risque, c'est de dire, au nom de la vérité, soyons intransigeants. Mais je crois qu'on peut être intransigeant au niveau de l'affirmation doctrinale, qu'on peut être intransigeant au niveau de la pratique personnelle de chacun, mais on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de détruire l'autre, même si on considère que ses idées sont fausses, quoi. La destruction de l'autre, c'est la destruction de l'homme.
Merci beaucoup. Et donc, on va finir avec un petit questionnaire comme ça pour s'amuser un petit peu. Quels sont les trois livres que vous emporteriez en voyage, indispensables?
Ça, je vous étonnerai pas en disant que j'emporterai la Bible. Bon, c'est la Bible, c'est une bibliothèque déjà. C'est plus qu'un livre. Je crois bien que j'emmènerai le Coran aussi aujourd'hui parce qu'il est devenu d'une certaine manière un ami parce que je plonge souvent dedans. Et puis après, je pense que j'essaierai de trouver peut-être un recueil de Negro Spirituals, de chants, de prières des Noirs américains. Bon, c'est bien sûr l'histoire de mon compagnonnage, de mon inscription dans le sillage de Martin Luther King, mais cette littérature traduite en chansons des Negro Spirituals m'a toujours beaucoup, beaucoup parlé. Je trouve que c'est formidable comment un peuple opprimé s'est emparé de la religion de ses oppresseurs et en a fait un outil de libération. Je trouve ça absolument fantastique. Pour moi, les Negros Spirituals, ce sont les psaumes du XXe siècle, du XIXe siècle, parce que c'est déjà au XIXe siècle qu'ils apparaissent. Et pour moi, c'est une vraie nourriture.
Ok. Votre verset préféré, peut-être du Coran et de la Bible ?
Alors, pour la Bible, c'est facile. Cette parole que l'on trouve dans la première lettre de Saint Jean, « Dieu est amour ». Et ensuite, pour le Coran, vous savez, il y a le très beau verset de la lumière. Hein, « Dieu est comme une lampe qui s'alimente avec l'huile d'un olivier ». Enfin, c'est un très, très beau verset. C'est sans doute celui-là que je choisirai en premier.
Et enfin, la personnalité qui vous a profondément marqué. Alors, peut-être Martin Luther King, j'ai peut-être une idée, non ? Ou quelqu'un d'autre ?
Oui, c'est sûr. C'est Martin Luther King qui, depuis ma préadolescence, est le visage un peu qui est derrière moi, qui m'habite et dans le sillage duquel j'ai essayé de jusqu'à présent de conduire ma vie, en étant chrétien à sa manière et en étant, j'espère, activiste de la fraternité à sa manière.
Très bien. Merci beaucoup, Père Delorme. Et puis, on vous souhaite... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Bah écoutez, de pouvoir continuer à vivre entouré d'amis et avec eux faire avancer un peu une humanité plus fraternelle.
Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.